Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chef d'entreprise, artiste sportif, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Laurence Aura, alias la psy des kilos. Laurence est psychologue nutritionniste et elle aide depuis bientôt 15 ans des femmes et des hommes à faire la paix avec l'alimentation, leur corps et leur poids. Vous connaissez peut-être son visage puisque Laurence intervient régulièrement dans le petit écran et à la radio, notamment aux côtés de Michel Simès, pour informer le plus de personnes possible. Un très bel échange sur son parcours, notre relation à l'alimentation et tout l'aspect sociologique de ce sujet, ainsi que ses meilleurs souvenirs culinaires. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Laurence.
Bonjour Théo.
Et merci d'avoir accepté mon invitation.
Non, merci de m'inviter sur le Pompon.
Avec grand plaisir.
Trop fière.
Eh bien, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Oui, alors, en quoi? En quelques mots ou en
comme tu veux,
de longues phrases?
On a le temps.
Bon, alors voilà, je m'appelle Laurence Aura. Je suis psychologue et nutritionniste, ce qui mériterait d'être un petit peu détaillé d'ailleurs.
Mmh, on prendra le temps de le faire.
J'ai 53 ans et ouais. Je le dis parce que c'est important dans mon parcours, de là où j'en suis aujourd'hui. Et je suis issue d'une formation, d'une double formation, d'une triple presque. J'ai commencé par vouloir être médecin. J'ai eu le concours post-bac et puis j'ai arrêté en fin de deuxième année. Et je me suis orientée vers la psychologie, psychosociologie, donc là où on s'occupe de l'individu par rapport au groupe et du groupe par rapport à l'individu.
Ouais, ça me rappelle quelques cours, ça, je crois.
Voilà, tu vois de quoi je parle. Et j'ai tout un parcours dans le monde plutôt du travail, de la psychologie du travail, de la communication interne, ce genre de choses, jusqu'au jour où j'ai décidé de faire une reconversion. En 2003, j'ai commencé à y réfléchir. Une reconversion vers la diététique pour devenir diététicienne et accoler mon activité et mes compétences de psychologue à celle de la diététique.
Ok, parfait.
T'as
cool.
Vu ouais. Synthétique. Hein.
Très bien, merci pour cette présentation. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite?
Docteur.
Ok.
Depuis l'âge de 5 ans.
Ah ouais,
ouais. J'avais
génial.
Un tonton qui était médecin, tu sais, médecin à l'ancienne. Enfin non, tu sais pas, t'es beaucoup trop jeune. Médecin à l'ancienne, c'était dans la campagne, dans le Haut-Doubs, en Franche-Comté. Vraiment dans la campagne, il était le seul médecin au début. Et il accouchait les gens chez eux. Enfin, tu vois, c'était vraiment, ouais. Il allait la nuit, le jour, sous la neige.
Ce 300... type de médecin de campagne, ouais, qu'on peut imaginer. Ouais.
Et moi, j'allais chez lui et chez ma marraine, qui était sa femme, en vacances. Et il nous emmenait dans ses consultations par moment. Je me demande si tu veux... Vu de maintenant, tu te dis, mais quoi? Comment? Mais qu'est-ce qu'il faisait là, les trois? Eh bien si, on était là dans les cours des fermes et parfois il rentrait avec un poulet qu'on lui avait donné comme paiement. Ouais. Enfin, tu vois, c'était... Et moi, je trouvais ça, mais dingue. J'étais toute petite. Hein. Les premiers souvenirs que j'ai de ça, c'est que je devais avoir à peu près 5 ans.
Ouais.
Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Moi, je veux être docteur, je veux aller chez les gens, je veux les rencontrer, je veux leur parler. Il y avait un lien entre eux, entre tous ces gens-là, tous ces patients et lui. Et même au-delà de ça, tu vois, ma marraine qui répondait au téléphone, qui ouvrait la porte, qui recevait plus ou moins les gens. Mais tout ça n'était pas du tout... installé au sens de le cabinet médical, non. Et puis alors, le must, c'était aller dans son cabinet, parce que ça, c'était genre le Graal, aller à son cabinet, s'installer comme si t'es une petite patiente en face du tonton, et puis de jouer au docteur, tu vois, mais ouais. Grandeur nature, quasiment. Ouais. Donc là, c'était fou. D'ailleurs, quand il est décédé, ma marraine m'a donné son bureau, tout le bureau, le siège, le bureau. Et pour moi, c'était très impressionnant. Comme je voulais être médecin, elle s'était dit, ben voilà, ça va faire une continuité. Bon, en réalité, le bureau est chez mes parents. mais y a un truc très, très symbolique dans ce métier, dans ses premières envies. D'où le fait que j'ai bien galéré au lycée pour suivre la formation la plus scientifique possible, alors que je pense qu'au fond, j'étais plutôt une littéraire, mais une littéraire contrariée, parce que tu ne rentres pas en médecine avec un parcours de littéraire, c'est compliqué. Et donc, j'ai fait à l'époque une terminale D, qui n'existe plus, qui a été remplacée par S, et une première année de médecine, que j'ai redoublé, bon, ça, c'est classique.
Jusque-là.
Quoi ? Ouais, normal. Et puis, une deuxième première année, mais avec énormément de souffrance. J'ai eu le concours. Okay. Là, c'était un truc de fou, merci. J'avais l'impression que ça y est, quoi, c'était plié, c'était le pire que j'avais passé. Et je me suis retrouvée en deuxième année, et là, le pire n'était pas passé. En réalité, je me suis dit, mais ça va être quoi ma vie, quoi ? J'ai quoi ? J'ai 8-10 ans à faire. Alors à l'époque, je voulais être ou chercheuse ou faire Médecins sans frontières ou un truc comme ça, tu vois, de l'humanitaire. Et je me suis dit, mais la deuxième année, j'ai pas eu, il me manquait des bouts. Enfin, il aurait fallu que je redouble ma deuxième année. Et là, je me suis dit, attends, 8 x 2 égale 16. Est-ce qu'à 20 ans, tu as décidé de partir pour 16 années d'études ? Tout ça en plus avec des espèces de parrains de promo qui t'expliquaient que ben, le boulot que tu as rêvé, qui était celui de ton tonton de quand tu étais petite, ben, c'était plus du tout ça. Qu'aller travailler en campagne, c'était à 20 ans, tu as envie de tout sauf de te dire je vais passer ma vie en campagne. Enfin, je ne sais pas si tous les jeunes de 20 ans n'ont pas envie de ça, mais nos jeunes n'en avaient pas envie. Ouais. Et donc j'ai décidé d'arrêter médecine. Mais ça a été un déchirement, quelque chose.
Pour toi ?
Horrible.
Ah ouais ?
Ah ben oui, parce que c'était renoncer à un rêve de toute petite fille, quoi, qui m'avait vraiment tenue pendant quasiment 15 ans. Donc c'est un vrai deuil à faire, quelque chose. Et surtout, je voulais m'éloigner de la médecine pour être sûre de jamais me retrouver face à un médecin qui allait me renvoyer ce truc que moi j'avais raté. Enfin, tu vois, un truc vraiment compliqué. Donc je suis partie, j'ai hésité entre la pub et donc la communication, quand même, il y avait toujours l'idée
de lien.
L'entre-deux, de lien avec l'autre. La pub ou la psycho. Et je suis partie en psycho.
Ok.
Et là, quand il a fallu que j'annonce à mes parents, mon père surtout, que... Alors non, déjà j'allais arrêter médecine. Ouais. Ça faisait quand même 3 ans qu'il il me suivait, il me soutenait. Et que j'allais partir en psycho, qui était... Il faut quand même se replacer dans les années 80. Là, on est 87. Qui était quand même le fond de la tasse des formations.
Okay.
Tous les gens qui ne savaient pas quoi faire partaient en psycho pour surtout glander. Et c'était des non-études. Quoi. Enfin, tu vois, c'était vraiment... Donc, passer de l'idée que ta fille va être médecin à l'idée que ta fille va être psychologue, et surtout quand t'es toi-même informaticien, machin. Là, je lui parlais un langage un peu étranger. Et il m'a dit cette phrase qui m'a paru horrible pendant des années. Il m'a dit, de toute façon, tu n'aurais pas été un médecin d'exception, mais tu seras une psychologue d'exception.
Ok.
Et cette phrase, elle m'a semblé d'une lourdeur. J'ai eu l'impression que d'un coup, boum, on mettait un quintal sur chaque épaule. Et avec, tu vois, l'idée de, ouais, tu dois avoir une destinée hors norme. Et moi, j'étais juste en train d'essayer de me trouver une destinée tout court. Donc, hors norme, si tu pouvais juste me laisser là avec mes petits problèmes.
Ouais.
Bon, j'ai fait psycho. Et puis, je suis arrivée sur le marché du travail en 92. Post-première guerre du Golfe, c'est bien, on fait un peu d'histoire. Hein,
oui, très bien, c'est parfait, trop cool, ravi. Alors moi, je suis né en 92, alors.
Ok, post-guerre du Golfe, donc. Si tu veux, j'étais à Paris, on rencontrait des chauffeurs de taxi qui étaient des ingénieurs qui n'avaient plus de boulot. C'était une situation de l'emploi vraiment très compliquée. Et à une époque où être au chômage, c'était encore... quelque chose d'extrêmement lourd à porter pour les personnes qui l'étaient. Tenter une reconversion, c'était même pas imaginable. Tu vois, t'étais ingénieur, tu finissais. Là, je mets des petits guillemets parce que c'est horrible de dire ça comme ça, mais chauffeur de taxi, c'était comme avoir complètement raté sa vie. Enfin, là, c'était juste pour bouffer. Donc, j'arrive sur le marché de l'emploi avec mon petit titre de psychologue. Et là, autant te dire que...
C'est parti.
On ne les attendait pas, les psychologues. Hein, ouais. Pas du tout. Ouais. Donc, j'ai commencé à bosser. J'ai eu la chance d'avoir un stage qui a duré un peu. Puis ensuite, j'ai bossé en faisant un peu du conseil. Mais plutôt
du
dans...
conseil en quoi ?
Du conseil en management, en organisation, okay. Du conseil en communication. Parce que finalement, j'avais fait une double maîtrise, psychologie sociale et psychologie expérimentale, et une cinquième année de psychologie du travail.
Okay.
Donc, moi, j'étais beaucoup dans les entreprises, mais les entreprises viraient tous les gens qui ne rapportaient pas d'argent. Mmh. Donc, les psys... Donc j'ai un petit peu galéré comme ça quelques années, et puis en même temps je bossais quand même un peu, ça allait, c'était pas foufou, mais ça allait. Ça m'a appris l'incertitude, la précarité, les CDD, les périodes de chômage, et puis on s'est acclimaté petit à petit à ça, parce que c'est la société aussi qui changeait comme ça. Et en 97 je suis rentrée dans une société, un petit cabinet de femmes qui faisaient du recrutement. Et à l'époque, des femmes qui faisaient du recrutement, des femmes jeunes qui faisaient du recrutement, c'était très atypique. Okay. C'était déjà un positionnement, presque un parti pris. Mmh. Non, parce que les gens qui faisaient du recrutement, c'était des vieux messieurs en général qui avaient une longue vie derrière eux d'entreprise et qui montaient un cabinet de recrutement un peu sur le tard. Tu vois. Quand on allait dans les réunions de professionnels, on arrivait, on était 5 gonzesses, toutes moins de 30 ans, ou 30 ans, ou 35, disons. C'était très, très particulier. Mais on a fait notre petit trou là-dedans. Moi, j'ai appris ce qu'était faire du commercial, aller démarcher des entreprises, expliquer ce qu'on faisait, vendre du conseil. Enfin, vraiment, et c'est pas mal parce que quand tu as fait des études de psycho, en général, tu n'es pas trop formé à ça.
Tu n'as pas là, toute cette partie commerciale.
Tu t'excuses de vendre quelque chose, de vouloir te faire payer, c'est un peu bon. Mais j'ai été bien managée par une commerciale pure souche et elle m'a appris beaucoup de choses. Et au bout de 6 ans de ça, alors ça a été bien parce qu'on recrutait des profils marketing, communication et ingénieur informatique. Mmh. Là, je te parle de 97, 98, 99, 2000. Tout cet accès à l'an 2000, c'était un moment où il y avait énormément besoin de profils, notamment pour le passage à l'an 2000, de profils techniques. Ouais. Donc, on recrutait, on avait énormément de missions. Et puis, on recrutait dans la pub et la communication, le marketing. Donc ça, c'est pareil, 2000, 2001, c'était vraiment très, très porteur. 2001, là, ça commence à... Il y a l'explosion de la bulle Internet qui commence à se produire. Donc, ça commence à devenir... Le marché était un peu plus tendu. C'est la vie du travail, quoi. Tu vois, tu as beaucoup de boulot, tu en as moins. Tu cherches des profils, tu ne les trouves pas. Puis après,
tu
as des centaines
tu
de CV
plus,
qui...
Tu en as plein.
C'est ça, exactement. Et en 2003, je me suis dit, mais attends, mais moi, ce n'était pas mon choix, ça. Moi, à la base, j'aurais jamais voulu faire du recrutement parce que je trouvais que c'était un truc qui était très dur dans le côté un peu sanction, tu vois. Tu fais tomber le couperet, tu as le poste, tu n'as pas le poste. Je trouvais ça assez violent. Et puis, des gens qui sont très demandeurs par moment. Et là, ça commençait à se tendre vraiment sévèrement en 2003. Et un jour, à l'occasion d'un rendez-vous chez le Toubib, il me dit « Est-ce que vous êtes heureuse dans votre vie ?» Alors là, je commence « Oui, 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 c'est super, j'ai un mari génial, que j'ai gardé d'ailleurs, j'ai un petit garçon génial, j'ai une maison super. » Et puis là, je m'arrête de parler, je me dis « Mais arrête, Laurence, réfléchis. »
Tu t'es entendu parler au final et
tu sais, l'espèce de truc d'autoconviction là.
Exactement.
Et je me suis dit, non, mais il faut que j'arrête, il faut que je prenne le temps de réfléchir à cette question, qui est quand même très, très importante. Et pour moi, c'est ce qui a déclenché ce constat de « je ne suis plus alignée avec ce que je fais, je ne veux plus faire ça, je veux mettre du sens dans ce que je suis en train de faire ». Et donc, il s'était quand même passé quasiment 15 ans entre l'arrêt de médecine et ce moment-là. Et à ce moment-là, je me suis dit... Qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie depuis longtemps ? Et je me suis dit, ce qui me fait vibrer, c'est deux choses. La première, c'est faire le lien, amener les gens d'un point A à un point B. Mm-hmm. Et finalement, dans le recrutement, c'est aussi ce que tu fais quand même.
À ce côté humain, quoi.
Tu vois, d'accompagnement, de démarche, de, on avance ensemble vers quelque part. Mm-hmm. Et puis, la deuxième chose, c'est tout ce qui touche à l'alimentation. Parce que je suis gourmande, parce que j'ai une grand-mère qui était cuisinière sur la fin de sa vie, j'ai une maman qui raconte beaucoup de choses à travers ce qu'elle fait, ce qu'elle fabrique pour les autres, parce que j'ai un mari qui adore la cuisine et qui cuisinait maintenant, et que donc tout ça, parce que le faire part de mon fils était de notre fils était une petite recette de cuisine,
donc
il y avait quand même un tropisme assez fort vers l'alimentation, la cuisine, la générosité, l'amour qui passe par là. Mm-hmm. Et finalement, en y réfléchissant, je me suis dit, mais la cuisine, ça agrège, enfin pas la cuisine, l'alimentation, ça agrège tellement de choses, de tellement d'univers, de registres différents, si tu veux. L'alimentation, ça implique la culture dans laquelle tu évolues, l'éducation que tu as reçue, les messages de santé publique, la santé tout court, l'esthétique, tu vois, qu'est-ce qu'on aime, les femmes, comment ça doit être, la religion, avec les interdits alimentaires, avec les évictions alimentaires, la dimension émotionnelle, la dimension psycho-affective. Je me suis dit, mais il y a tout. C'est génial. Et c'est un truc, manger, tu le fais du premier jour de ta vie au dernier jour de ta vie. Et je me suis dit, mais il y a un truc. Alors, là aussi, je resitue l'époque. C'est l'époque post-Montignac, les régimes où globalement, où les régimes hypocaloriques, enfin les régimes, les débuts des régimes hyperprotéinés, mais pas hyperprotéinés naturels, hyperprotéinés avec des sachets. Et là, et où on te disait, ok, fais-toi plaisir, mais si tu manges du chocolat, mange un carré. Si tu manges un dessert, c'est une fois par semaine, il faut compenser derrière. Enfin bref.
Il y avait les mets, quoi, beaucoup de mets.
Ouais, il y avait énormément de mets, énormément de privations, énormément de restrictions. Et je me suis dit, mais finalement, il y a peut-être une partition à jouer dans cet univers-là. Du corps, de l'alimentation, du rapport au corps, du corps dans la société, où un psychologue, j'en voyais pas, en fait, tu vois, où tu allais voir un nutritionniste et il te posait des questions et il te disait quoi faire en termes alimentaires, mais tu n'avais jamais quelqu'un qui faisait le lien entre, mais dans quelle société tu évolues, avec quel diktat, qu'est-ce que tu as internalisé comme information autour de tout ça, qu'est-ce que tes goûts aussi, comment ils se construisent. Non, il n'y avait pas tout ça. Si tu n'aimais pas le poisson blanc, mais ce n'est pas grave, il fallait quand même manger du poisson blanc. Tu vois, c'est bon. Et je me suis dit, il y a sûrement un truc à faire. Donc, je suis retournée voir ce médecin en lui disant, ben voilà, j'aimerais parler avec vous de cette question et de mon idée. J'ai discuté aussi avec quelqu'un, je pense qu'il va nous amener à la suite des événements, qui s'appelle Michel Simès, qui est un médecin bien connu des Français et qui est un ami. Et à qui je suis allée parler de cette envie que j'avais d'associer finalement deux compétences. Ça nécessitait que je me forme à tout ce qui concerne l'alimentation. D'autant plus qu'en France, c'est quand même difficile de partir avec aucun diplôme et juste d'être une voix. C'est compliqué parce que les gens te demandent vite. Enfin, on veut vite savoir ce que tu as. Donc moi, je ne voulais surtout pas risquer de tomber dans l'écueil de... Toi, ferme-la parce que tu n'y connais rien à la diététique, à l'alimentaire. Tu t'y connais en psy, ben occupe-toi de la psy.
Okay. Alors, encore aujourd'hui, tu penses, ou là, tu parles de l'époque?
Ah non, je pense encore aujourd'hui. Okay. Ouais, je pense que la France a une vraie...
Il y a encore un peu de travail, on est d'accord, mais...
Ouais. Et alors, d'autant plus si tu veux faire entendre ta voix au sens, tu vois, prendre, avoir une sorte de parole publique.
Oui.
Si tu es dans ton petit coin, tout seul, bon ben, pourquoi pas, tu vois, tu fais un peu ce que tu veux. Si tu as quelques clients, quelques patients et que ça fonctionne comme ça, tout va bien. Mais à partir du moment où tu commences à prendre la parole, ben, pareil, hein, à l'époque, 2004, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux maintenant, dans les médias, on te demande vite quand même de montrer
tes papier, diplômes. Ton passe, le fameux.
Une autre sorte de passe. Ouais, non, je pense que ça continue, que c'est quand même assez difficile. Et puis franchement, moi, vu tous les gens que j'ai croisés qui m'ont remise face à cette double formation, donc puisque c'est ce que j'ai fait un BTS de diététique, j'étais quand même contente par moment de pouvoir un petit peu fermer
le clapet de certaines personnes
voilà.
qui
qui voulaient me enfin qui se mettaient un peu en posture de tu vois dominante par rapport à moi et c'est vrai que quand tu dis ben alors attendez on parle de quoi là parce qu'en l'occurrence voilà ça ouais. je sais maintenant tu peux pas rester que dans une posture de sachant parce que ça a ses limites évidemment mais je me souviens notamment d'une fois un grand professeur de médecine qui m'a dit psychologue nutritionniste, mais vous n'êtes pas médecin. Alors j'ai dit non, je ne suis pas médecin, parce que nutritionniste, c'est tout un sujet. Est-ce qu'un nutritionniste doit être médecin ? La réponse est non.
Ouais.
C'est un terme qui n'est pas sanctionné par un décret de loi ou par la loi. Donc n'importe qui, si je puis dire, peut s'intituler nutritionniste. Et le fait de le savoir, le fait de dire « je suis diététicienne », donc sous-entendu « je sais de quoi je parle en termes alimentaires », « non, je ne suis pas médecin, mais je sais pourquoi j'utilise ce titre de nutritionniste et tu continues à le faire », ça a permis de poser un peu les choses. C'était avant de rentrer dans un studio de radio, ça a permis tu vois, de pouvoir parler un peu d'égal à égal et sans se retrouver en difficulté à devoir te justifier par A plus B que tu es bien la bonne personne pour parler de quelque chose. Voilà, donc... BTS diététique, BTS diététique parce que c'est la seule formation en France qui est pour le moment et qui te donne un titre de diététicienne. Donc là, je me retrouve avec le titre de psychologue, le titre de diététicienne. Bon, je t'avoue que la plupart des gens en 2004, quand j'ai dit que j'allais faire ça, la plupart des gens m'ont ri au nez. Je me souviens notamment de ma boss de l'époque à qui j'ai dit voilà, j'ai envie de quitter l'entreprise et de faire ça. Elle m'a dit non mais quoi ? Ben voilà, c'était vraiment sa réaction. Et moi, j'ai fait, ça me semble avoir du sens quand même.
Ouais, parce que je me suis dit, sur le moment, si tu as beaucoup de retours négatifs extérieurs, qui peut-être te projettent leur propre peur, mais bon, voilà. je peux enlever le peut-être. Mais comment tu le vis, toi, à ce moment-là ? Est-ce qu'à un moment, tu te dis, bon, en fait, non, je ne vais pas y aller, ils ont raison ? Ou non, tu ressentais vraiment ce besoin, cette envie, cette passion, je ne sais pas quel terme employer.
Ouais, non, mais c'est ça. Pour moi, le mot le plus juste, je pense, c'est le sens.
Ouais.
Si tu veux, j'avais vraiment pris du temps pour analyser. Ça paraît bizarre comme ça, mais si tu veux, en 2003-2004, au moment où je réfléchissais à tout ça, il y avait une espèce de vague. Il y avait énormément d'informations déjà autour de l'alimentation. Ça ne s'est pas amélioré. Hein. 15 ans plus tard, on est toujours noyé sur l'information. Bon. Mais il y en avait déjà énormément. Plein de une sorte de cacophonie, on appelait ça d'ailleurs la cacophonie alimentaire, tu vois, qui t'assourdit et puis tu sais plus quoi faire. Et puis tout ce pan là de la psychologie qui aujourd'hui est plus exploré par un plus grand nombre de personnes et encore, hein, ça reste très. Mais tout ce pan qui n'était pas du tout rattaché à la dimension alimentaire. Donc moi j'ai eu. Je pense que je peux dire, j'ai eu une espèce de préscience du fait que c'était une vague qui n'allait pas s'arrêter. Tu vois, qu'il y avait un truc qui allait m'emmener dans son élan. Et à partir du moment où les choses font sens pour toi et que tu as cette espèce de certitude au fond, tu y vas, tu vois. Et puis, de toute façon, tu risques quoi ? À un moment donné, j'étais toujours psychologue, j'aurais pu... n'importe
continuer,
quand,
ouais.
rebasculer. C'est ça aussi, si tu veux. Moi, je n'ai pas fait une rupture franche en devenant fleuriste. Ou n'importe quoi d'autre.
Ouais, bien sûr, mais un métier complètement différent. Quoi.
J'ai fait quelque chose où il y avait une continuité. Au contraire, moi, je voulais continuer à cultiver ma formation précédente et l'utiliser pour tisser des ponts entre deux champs qui, jusque-là, ne se parlaient pas. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, après, comme toujours, quand tu ouvres une voie, parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'on était peut-être 5 en France à avoir ce discours. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes pour bien poser ce discours. Puis après, tu le crées, tu vois, ton pont, c'est comme dans les dessins animés, tu sais, tu mets les lattes au fur et à mesure que tu cours et que le pont s'écroule. Donc là, il n'y avait pas de pont, donc je construisais au fur et à mesure. Et c'est le coyote là.
Je vois très bien, ouais.
Mais j'ai vraiment eu cette impression. Mais en même temps, c'était génial parce que d'abord, il y a d'autres pays que la France. Donc les États-Unis, mais surtout le Québec, étaient très en avance sur nous, sur tous ces sujets. Donc, et puis ça tombe bien, ils sont francophones. Donc ça m'a permis de connecter avec différentes structures ou différents écrits. Et puis, il y avait quelques bouquins, 3-4. Puis après, ben, t'avances, puis tu en trouves un autre, puis un autre, puis un bouquin américain qui est traduit en français, trop bien. Je dis ça parce que moi, j'ai du mal à lire de la technique, enfin des choses techniques en anglais. Ouais. Donc, je parle anglais comme ça pour le plaisir, mais dès que ça commence à se complexifier un peu. Et puis surtout, si tu veux, l'idée, c'était de faire de la dentelle à partir de ces deux fils-là que j'avais, de la diététique et de la psychologie. C'était de faire quelque chose qui est tout en nuance, tout en précision, tout en finesse. Mmh. Et donc, il s'agit d'être bien au clair avec tes préceptes et bien au clair avec tes bases, qu'elles soient scientifiques quand il y a des études qui ont été menées, qu'elles soient... Tu vois, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études. Et puis, petit à petit, ben, je me suis construit une ligne directrice. Et ça, c'était le deuxième écueil. C'est que c'est pas simple de construire une ligne directrice et de ne pas être rattrapé par ta peur du lendemain, par ta peur de ne pas gagner de sous. Donc, si tu veux, au début, dès que j'ai démarré, j'ai fait un blog dans lequel j'ai pu poser un peu tout ça, tout ce qui m'animait. Mais tu as des patients qui arrivent, qui n'ont pas lu ton blog, parce qu'à l'époque, les blogs, il n'y en avait pas 5500. D'abord, il n'y a plus de blog aujourd'hui, quasiment. Ouais. Non, mais c'est dingue. On est en train de parler de... Moi, je me suis installée en 2007. Ouais. On est en train de parler de 14 ans. C'est quand même
clair. Ouais, complètement.
Tu vois, c'est comme si entre, je ne sais pas moi, 1960 et 1974, on avait dit il n'y a plus de téléphone. Tu vois.
Bah, complètement. Ça va vite.
Ça va super vite. Bon, bref. Donc, j'avais des gens qui arrivaient et qui me disaient « Non, mais moi, je veux un régime. Non, mais moi, j'ai vu ça. J'ai vu tel praticien. Je voudrais la même chose. » Et c'était dur de dire non, de dire ben non, moi je ne vais pas partir avec vous là-dessus parce que voilà ce à quoi je crois et voilà comment je peux vous accompagner, mais pas comme vous me le demandez. Donc tu perds des patients, y en a qui ne comprennent pas, il y en a qui ne sont pas prêts à entendre un discours différent.
Ouais, c'est tout un travail effectivement d'information et de.
C'est ça.
J'ai plus le terme, mais de côté prof, enfin de. C'est pas que de l'information.
De transmission.
Mais transmission, exactement, et d'apprentissage, voilà, c'est plutôt le terme que je cherchais. Ouais.
Et puis après, les deux métiers, là, enfin, ce genre de métier, quand tu veux. Moi, tout de suite, je me suis dit, je vais monter un cabinet, parce que si tu veux, j'étais inaudible dans une institution. Ouais. D'ailleurs, on m'avait proposé après un stage en hôpital un boulot, mais on m'a dit, il va falloir que vous choisissiez. Ou vous êtes psychologue ou vous êtes diététicienne. Bah, j'ai dit, bah non, je n'ai pas fait ça pour choisir d'être psychologue ou diététicienne.
En fonction du jour, tu choisis.
Non, mais ça voulait dire que tu ne rentres pas dans la case, tu vois.
Complètement.
Et tu ne rentres pas dans la définition de poste. Bon, donc, je me suis dit très vite, il va falloir que je me construise ma propre activité. Mais ça fout les jetons. Et après, ben, il te faut des prescripteurs, des gens qui te font connaître. Ouais. Et là, les prescripteurs, c'est souvent des médecins. Mmh. Et je ne rentrais pas non plus dans les cases pour eux. Et puis en 2006-2007, tu es allée voir un médecin, je me souviens, enfin c'est du vécu, mais et c'était un jeune médecin pourtant, hein, qui avait peut-être 40 ans. Ouais. Et je lui dis, ben voilà, je fais ça et tout. Et il me regarde, il me dit, mais moi, je ne pourrais pas vous envoyer mes patients. Ils vont me dire, mais monsieur, je ne peux pas aller voir un psychologue, je ne suis pas fou. Ah, j'ai dit, ah ouais, on en est toujours là, donc hein, depuis 88, rien n'a changé. Ouais. Le psychologue, il fait peur, le psychologue, bon... Et c'est là que mon parrain professionnel, celui que j'étais allée voir et qui donc était déjà pas mal médiatique, mais qu'il était devenu encore plus en 2-3 ans, Michel Simès m'a invité alors que je crois que le jour où je suis allée, ou la veille, où je suis allée sur Europe 1, il avait une émission à l'époque sur ce média, j'étais allée monter, enfin, statutairement, mon cabinet. Donc, tu vois, c'était frais de chez frais. Et il m'a invitée pour que je parle de ce lien que j'allais faire entre l'alimentation et la psychologie.
Génial.
Ce qui a été mais incroyable. Ouais. Une chance, enfin, vraiment, mais je mesure la chance que j'ai d'abord de le connaître parce qu'il a été... il m'a offert des très belles opportunités ensuite. Mais ce coup de pouce-là, pour te donner un ordre d'idée, à l'époque, mon blog que j'avais construit un mois avant avait péniblement 4 vues par jour, ouais, peut-être. Et le jour où je suis passée sur cette radio, j'ai eu 8000 connexions le jour même.
Ah ouais.
Et genre 20 prises de rendez-vous. Donc, un média, mais très prescripteur.
Ouais.
Et puis surtout, une tribune, tu vois, pour pouvoir parler de ce lien-là, incroyable. Donc ça, ça a boosté mon développement. Je pense que j'ai gagné sur la première année, j'ai gagné facile 6-9 mois. Si tu veux, parce qu'après, tu vois comment les choses évoluent. Et donc, tu vois bien que ce genre de choses, ça te crée un accélérateur. Puis ensuite, ça retombe. Mais en attendant, ça avait enclenché la machine. Après, c'était pas évident parce que, tu sais, c'est des moments dans ta vie où t'as pas de sous, mais il faut investir. Il faut investir. Alors à l'époque, mon blog me servait de site et puis on était moins exigeants sur les sites internet. Mais quelques années plus tard, j'ai investi dans un site. Et à ce moment-là, il existait encore les pages jaunes.
Ça me parle.
Le grand-père de Google. Donc les pages jaunes, à l'époque, ça coûtait mais excessivement cher d'avoir un encart, tu vois, sur les pages jaunes. Et il commençait à faire des... Enfin, à cette époque-là, il commençait à faire des encarts Internet.
Okay.
Donc, je me suis inscrite là-dessus, mais bien m'en a pris. Parce que je pense que ça m'a amené plus de la moitié de mes patients dans les premières années. Après, quand Google a pris le relais, j'ai arrêté, évidemment. Et puis, à ce moment-là, j'avais une autre notoriété. Ouais. Donc, c'était aussi, entre guillemets, plus facile d'être identifié.
Complètement.
Mais à l'époque, ça veut dire aussi que les gens qui arrivaient vers moi arrivaient en sachant ce que je faisais. Tu vois, c'était pas...
T'avais pas toute cette explication à faire en disant, voilà, ce que c'est que les deux médias ensemble, pourquoi tu fais ça, et ils le savaient déjà, quoi.
C'est ça.
Donc, beaucoup plus facile.
C'est ça. Et puis, plus on avançait dans les années, et plus mon blog était fourni, plus j'avais fait de passage, on y reviendra peut-être en médias, et plus cette espèce d'évangélisation, elle commençait à être faite. Et c'est vrai que je pense qu'à l'heure actuelle, ça doit faire au moins... je ne sais pas, 7-8 ans que je n'ai pas dit à quelqu'un non, on ne va pas faire ça ensemble comme ça parce que ce n'est pas mon métier, ce n'est pas comme ça que je l'envisage. Alors, j'expliquais toujours pourquoi et après, les gens, ils ont le choix de continuer ou pas. Mais c'est de plus en plus clair et puis la société a évolué aussi, les médias ont évolué avec notamment les réseaux sociaux où beaucoup de gens prennent la parole, où ça donne une immense ouverture à différentes pratiques, à des réflexions, à te faire te poser aussi en tant que lecteur des questions et de pouvoir choisir vers qui tu veux te tourner.
Complètement. Si je vais rester, j'hésite. Non, on va quand même, parce que tu l'as dit au tout début, expliquer en fait ce qu'est ton métier exactement, parce qu'on a parlé de psychologue, de nutritionniste. Est-ce que soit tu veux expliquer chacun ou les deux ensemble sur toi ce que tu fais exactement aujourd'hui?
Ouais, je vais expliquer ce que je fais exactement parce que ça n'a pas beaucoup de sens de les dissocier.
Ok, alors exactement, ouais.
Alors, mon propos, c'est d'aider les gens qui viennent me voir ou les gens qui m'écoutent ou les gens qui me lisent à reconnecter, à se réaligner, à se mettre à l'équilibre dans leur rapport à leur alimentation, à leur poids et à leur corps. Okay. Voilà, tu vois, c'est en une phrase.
Simple, tout beau.
Or, ce qu'on voit, c'est que l'alimentation ayant trois fonctions, celle de te nourrir pour vivre, celle, une fonction sociale, bon, tu vois là, sociale, psychosociale, bon. Une fonction sociale qui est la fonction d'échange, ce qui se passe autour d'une table, tu vois, tu parles, tu échanges, tu règles des choses, tu te transmets des souvenirs, des recettes, donc des fonctions de transmission, de partage, d'échange, et une troisième fonction, une fonction hédonique. C'est-à-dire qui touche au plaisir.
Ouais.
Le plaisir à la fois de manger, quelque chose qui te fait plaisir, le plaisir de partager, le plaisir d'offrir, le plaisir de donner. Et à travers cette fonction hédonique, il y a toute cette dimension émotionnelle tout ce que l'alimentation sait nous apporter, qui vient panser nos blessures, faire du bien à nos maux, nous réconforter, nous rassurer. C'est tout ça que je vais appeler la dimension émotionnelle.
Ouais.
Donc, on voit bien, avec ces trois grandes fonctions d'alimentation, que finalement, parler que de la dimension nutritive, ça n'a aucun sens. Parce qu'on n'est pas hors sol. Tu vois, dans les livres, tu peux parler de la dimension nutritive seulement. Mais en réalité, quand tu... quand tu bois un thé, tu n'es pas en train de te dire « Waouh, combien de théine il y a là-dedans » et puis « Est-ce que ce n'est pas en train d'être chélateur de mon fer et de mon calcium et que donc ce n'est pas une bonne idée ?» Non.
Je pense à ça depuis tout à l'heure.
Aïe, 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 j'ai un expert en face de moi.
Absolument pas.
Non, là, on boit un thé parce que c'est agréable, c'est chaud, ouais. C'est un moment où on partage ça, mm-hmm. Voilà, dans mes jolies petites tasses. Et donc, pour moi, isoler la dimension nutritive, ça n'a aucun sens. Maintenant, il faut quand même en tenir compte parce qu'on est dans un contexte moderne, on va dire, alimentaire, qui est très compliqué, très touffu, avec beaucoup d'abondance alimentaire. Quelque chose que l'humain ne sait pas gérer, qu'il n'a jamais su gérer depuis la nuit des temps, puisque ce qu'il a géré, c'est la disette, c'est le manque. Ouais. Et que là, depuis quelques années, pour la plupart des gens, on se retrouve devant, en tout cas, une offre surabondante. Quand bien même on n'a pas accès à cette offre, elle est là. Elle est là et elle génère de notre part une obligation de nous réinstaller et de relire, de revoir nos valeurs alimentaires. Je te donne un exemple. Quand mes parents ou mes grands-parents m'ont dit « Finis ton assiette », c'est le chat qui rentre.
Salut le
On
chat.
Avait pensé à tout, sauf au chat qui allait rentrer.
Très bien, très bien.
quand tes grands-parents te disent « Finis ton assiette » quand t'es petit, parce qu'eux ont grandi dans un moment où c'était plus compliqué, où peut-être leurs parents n'avaient pas beaucoup d'argent, où il y avait une valeur forte attaché à la question alimentaire et à l'aliment, ben aujourd'hui, dire à un enfant « finis ton assiette », ça demande d'y réfléchir et de bien y réfléchir. Parce que est-ce qu'on n'est pas en train de lui demander de se surnourrir dans une période où, comme il y a profusion et abondance, on va plus avoir des difficultés à faire face au fait de se surnourrir qu'à faire face au fait de laisser dans son assiette et peut-être garder pour le lendemain, pour un autre moment, lui apprendre à se servir
J'ai déjà eu des chiens et des coqs. Alors, y a pas...
C'est vrai. Alors, fais le coq, Lémi, parce que là, c'est ridicule ton petit miaulement. Donc, voilà, ça, c'est typiquement le genre de valeur qui est compliqué pour un mangeur moderne parce que tu as des gens qui sont. Qui ont envie de finir leur assiette parce qu'on leur a dit de finir leur assiette, qui en même temps se disent bah oui mais j'ai trop mangé, mais qui en même temps ne savent pas quoi faire de cette valeur et qui sont en conflit de loyauté vis-à-vis de leurs parents, de ce que leurs parents ont vécu, ont souffert ou peut-être même quand ils étaient petits. Donc tu vois le rapport au manque, le rapport à l'abondance, le rapport au don quand quelqu'un te dit bah j'ai fait à manger pour toi, quoi, t'as pas faim? Non, j'ai pas faim. Oui. Et comment je vais me sortir de ce pas sans culpabiliser quand tu vas chez ta maman, chez ta grand-mère, chez ta tante et qu'elles te font un truc que t'adores mais que vraiment t'en veux plus. Comment tu... Donc moi, c'est ça que je trouve génial dans mon métier, c'est que j'amène les mangeurs qui sont en face de moi à se poser des questions sur tout ce qui les traverse, que ce soit, là on a parlé par rapport à la valeur alimentaire, mais que ce soit par rapport à leur rapport à la beauté. Tu vois, en quoi j'ai intégré des diktats esthétiques qui ne m'appartiennent pas, qui finalement, est-ce que j'ai une morphologie X, est-ce que je pourrais jamais avoir la morphologie Y qui est à la mode en ce moment? Et si j'ai pas la morphologie Y, est-ce que je suis malheureuse? Malheureuse, mais j'ai beaucoup de patientes. Donc c'est vrai que je vois beaucoup mon métier de manière féminine. Est-ce que je suis malheureuse? Comment je peux m'affranchir de ça? Comment je peux me rebeller? Comment je peux faire entendre ma voix, respecter mon corps pour autant? Enfin, voilà, c'est sur tous les sujets, finalement, la connexion psychologique, émotionnelle, affective fonctionne avec la dimension alimentaire et corporelle.
Ouais, ouais, complètement. Et je me demande justement, en 14 ans, donc tu disais ça fait 14 ans que tu fais ce métier-là.
15 même cette année.
15 maintenant, ok. Est-ce que tu vois justement enfin l'évolution avec tous les réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça, est-ce que l'impact est si grand ou est-ce que c'était déjà comme ça avant? Enfin comme ça, je pense à la comparaison, à tout ce qu'on peut au mannequin. Bon, tu me diras, les mannequins, toujours été très, très fine, trop. Est-ce que tu vois une évolution là-dessus?
Alors, je vois surtout quelque chose arriver qui est plus d'inclusion des corps divers dans les... partout, en fait. Dans les défilés, dans les images, dans les séries télé, dans le film au cinéma. Je me souviens, il y a encore 7-8 ans, avoir eu des jeunes femmes comédiennes qui me disaient, si je veux travailler, il faut que je rentre dans une taille 34. C'était la grande époque de la série Desperate Housewives, où elles faisaient toutes, je ne sais pas combien de kilos, enfin, elles étaient toutes très minces, parce qu'une taille 34, je vais le dire là hein, quand même, mais ce n'est pas normal, une femme n'est pas faite pour faire une taille 34, ou peut-être rarement, dans certains cas morphologiques très précis, mais globalement, une taille 34, c'est trop petit pour une femme adulte bien portante. Donc bon, voilà, et aujourd'hui, je trouve, même si je pense que ça reste très compliqué pour certains métiers, de la discrimination à l'emploi, à l'embauche, pour des gens qui ne sont pas dans les cases, là encore, je trouve quand même qu'il y a quelque chose qui s'élargit et qui s'ouvre, ce qui est plutôt assez rassurant. Maintenant, l'effet néfaste, c'est en effet cette capacité à se comparer et se comparer sans arrêt, tout le temps, parce que quand tu passes 2 heures, 3 heures sur ton compte Insta, ben, tu vas voir défiler des tonnes de filles qui sont comme ci, comme ça. Et ça, c'est compliqué. Et on sait que pour l'estime de soi, c'est pas bon du tout. Alors, pour mon business à moi, c'est très bon. Hein, parce que je n'ai pas arrêté de travailler en longtemps. Non, objectivement, tu vois, j'aurais pu me dire à un moment donné, mais est-ce qu'à un moment, ce que je fais ne va pas arriver un peu au bout, tu vois, de... Ben, écoute, franchement, là, moi, dans les 15 prochaines années, quand tu sais le temps que met une génération... Enfin, comment te dire? Les changements... L'humain est tellement résistant aux changements que les changements, quand ils sont initiés à un temps T, il faut quasiment 20 ans pour qu'ils percolent de façon... Ils perfusent dans la société de manière vraiment répandue. 20 ans, c'est énorme. Donc là, j'en ai fait un bout, j'ai fait 3/4. Honnêtement, les changements que je vois aujourd'hui ne me semblent pas suffisamment amples et il va falloir encore 2 ou 3 générations au sens sociologique, c'est-à-dire 20 ou 30 ans, pour que les femmes peut-être acceptent de laisser leur corps évoluer comme il veut. Et ça, c'est juste au niveau esthétique, mais on a aussi toute la pression médicale sur la question du poids et du corps. Parce qu'on on associe beaucoup la minceur à la santé, ce qui n'est pas forcé, parce qu'on peut avoir des gens beaucoup trop gros mais par rapport aux normes, mais en très bonne santé. Et ça se compte en quasiment un tiers, hein, c'est beaucoup. Et inversement, des gens très minces en mauvaise santé, et c'est quasiment un quart. Donc, qui est plus embêtant parce que pour le coup, c'est invisible. T'es en bonne santé, ben, on va pas aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Donc cette histoire de minceur santé qui est beaucoup portée par les médecins, je pense que là, on en a pour plusieurs dizaines d'années pour arriver à décorréler ça et à ce que finalement chacun puisse faire la différence entre l'évolution de son corps classique au cours d'une vie. J'ai eu 2 enfants, j'ai eu 3 enfants, j'ai eu 1 enfant, j'ai pas eu d'enfant, mais j'ai eu tel, et voilà, et mon corps évolue comme ça. Je pense que on en a encore un bon paquet de temps, malheureusement. Et l'autre dimension, c'est la complexité alimentaire et tous les produits ultra transformés, parce que là encore, même si on commence à faire entendre l'idée que c'est bien de cuisiner, c'est bien de... Ben, toi qui es tout jeune, 92, t'as quoi
Je vais avoir 29 ce mois-ci.
Je ne sais pas si tu cuisines beaucoup.
Je cuisine quasiment tous les jours, ouais.
Ah ouais, bah ouais. Voilà.
Je mange local, bio, voilà. Okay.
Monsieur Parfait. Pas...
Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais puis ça veut rien dire, parce que pendant beaucoup de temps, je crois l'avoir déjà raconté ici, mais pendant beaucoup de temps, je cuisinais beaucoup de légumes en me disant c'est trop bien de manger des légumes, mais en fait, j'étais hyper fatigué parce que je n'avais pas du tout d'apport autre que ça.
Ah oui.
Alors j'exagère, mais je mange quasiment un peu de viande, quasiment pas de poisson aussi. Bref, je vais pas raconter tous mes repas, mais en tout cas, tu vois, c'était pas forcément très logique. J'avais pas analysé tout le reste, on va dire quoi. Mais donc je suis pas forcément représentatif effectivement de
non
Je commande quasiment, j'ai pas d'application pour commander de la nourriture sur mon téléphone, par exemple.
Bravo. Ouais. Ouais. Alors, c'est plutôt rare. et c'est vrai qu'entre je vais faire quelque chose, puis bon, on est très très bien servi à Bordeaux avec une proximité des producteurs, avec une espèce de manne comme ça alimentaire de bons produits. C'est vrai que dès que tu rentres dans d'autres métropoles ou d'autres endroits en France, ça peut être plus compliqué d'avoir accès à des produits bruts de bonne qualité et pas trop chers.
Ouais,
parce qu'il y a cette dimension aussi. Ouais. Mais c'est vrai que juste d'amener l'idée de cuisiner, même si ce n'est pas tout le temps, mais un petit peu de transformer. Et puis encore, je dis cuisiner, mais finalement, même manger des trucs crus, basiques, bruts, c'est déjà une autre manière de manger que des produits qui sont transformés par un industriel ou un restaurateur, ou un semi-industriel restaurateur.
Ouais.
donc voilà, je pense que tout ça, si tu veux, ça vient compliquer les choses et il va nous falloir encore des années d'évangélisation, de transmission, de partage, d'éducation pour que peut-être les choses changent véritablement en profondeur.
Ouais, j'espère que ça prendra moins de temps, mais bon, que déjà que ça change, ça pourrait être pas mal. Quel est ton meilleur souvenir culinaire ?
Waouh !
Ouais, elle m'est arrivée il y a 30 secondes. Je la trouvais cool.
Mon meilleur souvenir culinaire. Alors, mon meilleur souvenir... Oh, fou, là, j'en ai 50. Attends, ouais. Oui. Au restaurant, en produits d'enfants...
Ah ouais, c'est ça, je me suis dit, il y a tellement de trucs. Non, ton meilleur souvenir gustatif.
Alors, mon meilleur souvenir gustatif, c'est horrible parce que ça va être très pédant et très snob, mais vraiment, ça a été incroyable. Enfin, j'en ai deux. C'est deux très grands restaurants. Ouais. À l'époque, Marc Vera, c'était déjà pas mal de temps. Mmh. Et c'était la première fois que j'allais dans un 3 étoiles. Okay. Ça a changé ma vie. Enfin, au sens où je ne savais pas que tu pouvais manger et ensuite avoir tes papilles tellement excitées, ta bouche tellement stimulée, qu'après, tu ne veux plus rien mettre dans ta bouche pendant... je crois que j'ai rien mangé pendant 30 heures, quelque chose comme ça, après, parce que j'avais l'impression que ma bouche, elle faisait bzzz, comme ça, tu vois, de cette excitation.
Ouais.
Bon, outre le fait que c'était magnifique et tout, mais vraiment, en termes gustatifs, c'était dingue. Et j'ai mangé des trucs, je me souviens d'un morceau de morue avec de la saccharine brûlée dessus. Bon, déjà, tu mets ça sur un papier, tu fais... Non, bah, bon, quoi? Et puis, en fait, c'était fou, quoi. C'était d'une modernité, d'une inventivité, avec des produits de super bonne qualité. Donc ça, c'était vraiment un émoi gustatif important et fondateur, parce que je pense que ça a changé quasiment du jour au lendemain mon rapport au bon et à une ouverture. Il faut que tu saches une chose, c'est que moi, je suis une ancienne néophobe alimentaire.
C'est quoi néophobe ?
Néophobe, c'est qui a peur de la nouveauté.
Ok,
alimentaire.
Oui, en même temps, je...
Alors, ouais. C'est un temps par lequel passent 75% des enfants entre l'âge de 2-3 ans et l'âge de 8 ans, à peu près 7-8 ans. Donc, ils refusent de manger des choses qu'ils ne connaissent pas, sous une forme qu'ils ne connaissent pas. Ils veulent que des choses qui sont blanches. Bon, voilà, ça s'appelle la néophobie alimentaire. Normalement, ça passe. Et moi, ça a eu énormément de mal à passer.
Okay.
Et je dis normalement, mais il y a encore des adultes. Moi, je suis parfois des adultes qui sont néophobes alimentaires parce que c'est chiant. Enfin, tu vois, tu peux aller nulle part, tu peux pas aller au resto, tu peux pas aller chez des gens. Alors moi, j'étais pas à ce point-là, mais j'avais un petit répertoire alimentaire et qui était vraiment très étroit. Et puis, j'ai rencontré mon mari et puis il y a eu ce resto. Et ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, je peux manger plein de choses. À partir du moment où je n'associe plus un nom genre « j'aime pas le poireau » ou « j'aime pas le brocoli », mais où ce qu'on me sert me ravit, et finalement, on s'en fout que ce soit du brocoli ou du poireau ou je sais pas, un truc que t'aimes pas.
Ouais.
Et ça, vraiment, je pense que de ce jour-là, mon répertoire s'est grandement ouvert. Alors, il y a encore plein de gens dans ma famille qui considèrent que je suis très difficile, mais franchement, vu de là d'où je viens...
Ça a bien évolué.
C'est sûr.
Okay.
Et tu veux que je te parle de mon pire dégoût?
En fait, tu parlais de deux moments,
ah oui,
je
bah
crois.
Le deuxième, le deuxième, c'est chez Bra. C'est aussi un grand restaurant. Et là, énormément de légumes. Tu sais, il s'était fait connaître Michel Bra pour cette assiette incroyable.
Hyper coloré, là, c'est ça ? Hyper coloré, non ? C'est pas ça ?
Hyper coloré, ouais. Avec des fleurs, avec des jus de légumes. On aurait dû une palette. C'était aussi beau avant de manger qu'une fois que c'était fini. Okay. Tu sais, on aurait dit qu'on avait mélangé des peintures, c'était sublime. Génial. Et c'est vrai que ça, j'ai eu la chance de faire des jolis restos dans ma vie, mais ces deux-là, c'était incroyable. Mm-hmm. Incroyable.
Et tu voulais partager le pire alors, même ouais. si je ne t'ai pas demandé le pire, mais vas-y.
Oui, je veux partager le pire. Les épinards.
Ok.
Les épinards, alors là, ma tante et mon oncle, avec qui je partais en vacances un mois par an, il y avait toujours au moins deux séries d'épinards pendant ce mois-là. Mm-hmm. Et pour moi, c'était un cauchemar parce que... mais ça a aussi forgé, je crois, mon rapport à l'alimentation. On m'obligeait, mon oncle, qui était donc médecin, ce fameux médecin, c'était la vieille école, hein, m'obligeait à rester devant mon assiette jusqu'au moment où j'aurais fini les épinards. Mmh. Donc, si tu veux, j'avais une flaque verte que ma tante essayait d'améliorer avec des œufs durs, des croutons, de la crème fraîche, du gruyère râpé, enfin, tout ce qu'elle pouvait. Sauf que je mangeais tous les trucs que j'aimais, les œufs durs, les croutons, le gruyère. Bon, la crème fraîche, je ne pouvais pas la dissocier. Ça se figeait petit à petit, tu vois. Ouais. Et j'étais là à me dire, mais comment je vais faire? Et alors, c'était affreux parce que j'étais devant mon assiette et je savais qu'à partir du moment où je l'aurais fini, on était au bord d'un lac. On avait le droit d'aller se baigner 3 heures après avoir fini, vieille école, 3 heures après avoir fini de manger. Donc je me disais, plus j'attends, ouais. plus tard sera le droit à la baignade. Ouais. Et ça rajoutait à ma frustration et à mon... et c'était vraiment atroce, quoi. J'en ai un souvenir. Mais je crois que tout ça, ça a aussi généré cet intérêt que j'ai pour l'alimentation et la façon dont finalement... l'éducation, là, par exemple, ou les principes d'éducation, t'amènent à développer, à résister, à te rebeller ou à trouver des stratégies. Je ne parle pas que pour éviter les épinards, hein, mais plus globalement. Et à faire de toi le mangeur que tu es. Mais rien n'est détricotable. Mmh. Souvent, on a l'impression que tout est figé, tout est coincé, que c'est un nœud. Et finalement, moi, mon boulot, c'est de défaire les nœuds. Mmh. Voilà.
C'est joli. Tu parlais médias tout à l'heure. Parce que oui. pour le coup, on en a rapidement parlé, mais effectivement, tu as participé à plusieurs émissions télé. Mm-hmm. Tu vas y revenir, avec plusieurs émissions radio aussi. Mm. Tu as parlé tout à l'heure, tu disais que c'était grâce avec Michel Simès, peut-être d'autres choses. Est-ce que là aussi, tu peux nous raconter tous ces... Alors, pas tous les épisodes, mais en tout cas, comment tu as vécu ça aussi?
Oui. Alors, donc ça a commencé par cette émission de radio. Ouais. Alors, le média radio, c'est un média que j'adore. J'adore la voix, j'adore... Mm-hmm. Donc, c'était doublement génial pour l'expérience radio aussi. Et derrière, de façon... Alors, pas du tout en lien avec Michel Simès, mm-hmm. J'ai eu la chance... attends, j'essaie de me rappeler comment ça s'est passé. De rencontrer une Laura Hannart, qui est maman chef, qui donc travaillait beaucoup sur l'alimentation des enfants. Non, c'est pas du tout dans ce sens-là, je te dis n'importe quoi. Pardon. Non. Donc, mon mari travaillait à l'époque sur deux émissions qui s'appelaient Les Maternelles et On n'est pas que des parents.
Ouais.
Et qui était animé par Karine Lemarchand à l'époque. Mmh. Et j'ai passé un casting. Ils cherchaient de nouveaux chroniqueurs pour l'année suivante. J'ai passé un casting où ils n'étaient pas là. Mmh. Et puis, j'ai été retenue. Et j'ai fait une saison, une ouais. année d'émission de chronique hebdomadaire mmh. sur la question de l'alimentation des enfants et de la femme enceinte et de la femme allaitante.
Génial.
Ouais, c'était vraiment... c'était ma... première expérience vraiment en télé, en média.
Ça t'a pas fait peur? Parce qu'il y a une différence entre avoir des gens dans son cabinet et passer avec plusieurs caméras sur un plateau quand même.
Oui, alors moi j'ai toujours du trac, mais même maintenant, hein, c'est okay. toujours. Mais j'ai un trac qui est très 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 constructif. Mm-hmm. D'ailleurs, bon, j'ai l'impression que je peux plus respirer, je suis là comme ça. Mais ça concentre mon énergie. Tu ouais. sais, dans le stress, tu as deux stress. Tu as le distress et le stress. Mm-hmm. Et le distress, c'est celui qui te rend un peu sidéré, paralysé, ouais. Mal, des palpitations, l'impression que tu vas mourir. Mm-hmm. Et puis le stress, c'est celui, au contraire, qui te donne l'élan, qui te permet d'avoir toutes tes facultés intellectuelles qui sont mobilisés mm-hmm. et c'est celui qui te permet de courir loin du lion si jamais t'es poursuivi par un lion.
Exactement.
C'est celui-là. et moi je pense que j'ai un stress qui est assez fort, donc mm-hmm. c'est vrai que quand tu es comme ça devant des médias, tu es obligé d'avoir une espèce de concentration et il faut être un sprinter. Tu vois, tu ne peux pas être un marathonien, démarrer tranquillement et puis te dire je m'installe dans le temps. Non, là, il faut tout donner en l'espace de... En général, ça dure 5-6 minutes. Et moi, je ne peux pas apprendre par cœur. Depuis que j'ai arrêté médecine, je ne peux plus rien apprendre par cœur. Donc, je suis incapable d'apprendre par cœur. Mais en même temps, ce sont des sujets... Si tu veux, je ne suis pas journaliste. Je ne traite pas des sujets que je ne connais pas. Ouais. Je ne traite que de sujets que je connais, sur lesquels j'ai un socle de connaissances. Suffisamment fort pour me sentir sûre sur mes appuis. Et donc, et tout est écrit néanmoins, c'est-à-dire que l'animateur, il sait de quoi tu vas parler. Bon, parfois, il faut montrer des choses, donc tu as quelques trucs qu'il faut connaître, comment tu montres un livre, comment tu montres à une caméra. Il faut surtout tenir le temps, ce qui n'est pas très simple pour moi parce que, comme tu peux le voir, j'adore parler. Je suis assez prolixe. Et donc, il faut tenir le temps, mais tu as un assistant réel qui s'avérait à ce moment-là être donc mon mari, qui te fait des signes, qui à la fin te fait le signe qui va t'égorger carrément, tu vois, si tu n'arrêtes pas de parler, parce que là, c'est bon, tu as carrément fini ton temps. Mais bon, tu as des points de repère comme ça. Donc, j'ai vraiment eu la chance de démarrer ça dans un climat qui était bienveillant et soutenant, et avec quelqu'un, donc en l'occurrence mon mari, qui était capable à la fois d'avoir un esprit critique sur comment j'étais, donc qui m'a fait énormément progresser. Parce qu'en effet, alors je me souviens quand même que en sortant du casting, les deux personnes qui m'avaient fait faire ce casting m'avaient dit. C'est incroyable parce qu'on dirait que tu es dans ton salon quand tu parles comme ça devant une caméra. Mais parce qu'en réalité, c'est comme si tu parlais à quelqu'un.
Ouais.
Tu vois, d'ailleurs, tu parles à quelqu'un, tu as ou d'autres chroniqueurs ou un animateur, et tu lui parles à lui. Là, moi, je ne suis pas en train de me dire, il y a X personnes qui vont nous écouter. Je suis en train de me dire, est-ce que Théo comprend ce que je suis en train de lui dire? Est-ce qu'il réagit? Comment? Enfin, voilà. Donc, c'est pareil, finalement.
Complètement.
Le média de masse, il n'est de masse que dans le résultat, que dans la conséquence, mais pas du tout dans la...
Sur le moment.
Sur le moment. Ouais. C'est tout à fait différent, par exemple, d'une conférence avec, je sais pas, 1000 personnes. Donc, j'ai fait toute cette saison, qui était... C'était très bien, c'était très intéressant, c'était rigolo parce que je ne connaissais pas. Ce qui m'a amené à rencontrer, grâce à la presse, etc., cette fameuse personne, Laura Hannart, dont je parlais tout à l'heure, qui est maman chef. Et après quelques rencontres, il m'a proposé de coécrire un livre avec elle, qui a été mon premier ouvrage.
Libérons l'assiette de nos enfants.
Oui, libérons l'assiette de nos enfants. Et alors ça, c'est marrant parce que tu sais, moi, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours été très lectrice. Et ça, c'était un gag avec mon mari. Quand je lui disais, j'ai eu mon éditrice au téléphone, il disait, vas-y, répète.
Ouais, génial.
J'ai eu mon éditrice au téléphone.
Ah, énorme. Ben ouais, c'est ça qui est génial. En plus, tu le disais tout à l'heure, tu voulais, enfin, le côté littéraire que tu as voulu faire au lycée, enfin, pendant tes études, revient plusieurs années plus tard.
Mais
c'est
ça. Et t'écris un premier livre, et puis là, je crois, j'en suis à mon huitième ou quelque chose comme ça.
Ouais.
Et c'est génial aussi de sentir que t'as la confiance des gens en face, parce que là, pour le coup, un livre, c'est un gros travail de fond. C'est, il faut être soutenu, suivi, avoir une forme d'approbation, tu vois. Bon, après, j'ai aucun livre qui s'est vendu à 200 000 exemplaires, hein, ni 20 000. Donc, bon.
Déjà, rien que le fait d'écrire un livre et de le publier, qu'il soit publié, c'est quand même, ça n'arrive pas à tout le monde non plus. Donc,
t'as un truc, c'est un avènement, quoi. Tu vois, je ne vais pas dire que c'est un accouchement parce qu'il n'y a rien d'au-delà de l'accouchement, mais c'est quelque chose, c'est précieux. C'est vraiment un objet, quand tu ouvres de carton là, que l'éditeur t'envoie et que tu tiens ton premier exemplaire et là tu fais « Waouh, c'est mon nom !»
T'as fait quoi? T'as fait le tour de Bordeaux en courant avec un livre dans chaque main, tu sais.
C'est le mien, c'est le mien. Alors j'étais à Paris à l'époque, donc j'ai fait le tour de Paris.
Ah ouais, un peu plus long, mais ok.
Non mais c'était fou, tu vois, et puis après, tu te dis « Ah ouais, on a écrit tous ces mots quand même. » Donc là c'était en coécriture, je crois qu'il me fallait un petit peu de temps avant de... J'ai mis très longtemps à écrire un livre toute seule. J'écrivais beaucoup en coécriture. J'avais l'impression, je pense, d'être très rassurée par les co-auteurs et le fait que j'étais pas toute seule dans cette galère. Et puis jusqu'au moment où, d'ailleurs, après ce premier livre, j'ai dit j'écrirai plus jamais. Okay. C'est un cauchemar. Ok, le huitième.
Ça fait beaucoup de cauchemars, mais bon, après...
Non, mais je te rassure, à chaque fois que j'en finis un, je dis, oh, non, pff, c'est le dernier, là, de toute façon, j'aurais plus d'idées. Non, parce que c'est un accouchement douloureux, un livre. En plus, tout s'étale beaucoup dans le temps. C'est entre le moment où tu conçois le projet et tu es dans l'excitation du projet et le moment où tu as le livre qui rentre en librairie. Il se passe entre 12 et 15... Enfin, ça dépend après du timing que tu te donnes avec ton éditeur. Mais le dernier, il a fallu 12-13 mois.
Ouais.
Donc, il faut la tenir, l'intensité, l'énergie.
C'est clair. Là, on est dans le marathon. Tu parlais de sprint tout à l'heure avec la télé. Là, on est dans le marathon avec l'édition. Quoi.
C'est ça. Ouais. Franchement, c'est pas là où je suis la meilleure.
Ouais.
Mais bon. Et donc après les maternelles, il s'est passé, alors je ne sais plus trop dans l'ordre, mais j'ai été en contact avec D8 et j'ai fait une saison sur Le Grand 8, animé par Laurence Ferrari.
Avec les sacs à salade, les chroniques.
Oui.
J'adore le nom.
Ah mais c'est génial les sacs à salade. Attends, on va faire un peu de pub. Mais j'adore ce produit. En plus, il y a une diététicienne qui l'a mis au point. C'est un couple qui, elle s'est dit, mais attends, le gâchis, la salade, c'est super dur à conserver, c'est une grosse galère. Attends, je me recule un peu pour que monsieur chat...
Pour que le chat puisse venir.
Viens là, viens Mimi, viens. Bon, elle se dit, non, mais il n'y a rien à manger
troisième
sur cette
table. C'est ça.
C'est nul. Et donc, le sac à salade, c'est un sac en toile à beurre, donc une toile très, très, très lâche. Toi qui aimes bien les légumes, ben, vraiment, ça peut être pareil. Qui est recouverte, cette toile, d'un tissu enduit. Donc, tu conserves ta salade, tes herbes, etc., dans la toile à beurre, qui est humidifiée et qui va être maintenue humide grâce au tissu enduit.
Ok.
Et grâce à ça, tu gardes une salade 10 jours.
Oh là là, c'est un truc de fou. Ça. Ah
ouais. Les herbes, pareil. Le thym, là, dans la chronique que tu as vue, le thym, il avait vraiment 10 jours. Quoi. Je ne mange jamais dans mes chroniques, je n'invente rien. Je sais que la télé aime bien rendre des trucs plus beaux qu'ils ne sont, mais là, en l'occurrence, ce n'était pas obligé. Et moi, j'en ai, je ne sais pas combien, des sacs à salade, j'en ai avoir une dizaine. Dedans, je mets les fromages, je mets la charcuterie, parce que c'est vraiment un produit... génial, qui est durable, qui est écologique, voilà, je trouve ça top.
Cool.
Donc, en effet, il y a eu cette chronique. Bon, ça a été difficile, le Grand 8, parce que là, c'est compliqué d'arriver en parlant d'alimentation sur un plateau où il y a 5 femmes qui ont toutes leurs problématiques par rapport à l'alimentation, qui sont toutes très exposées au niveau de leur corps et j'avais un peu l'impression de rentrer sur un ring.
Okay.
Bon, là c'était du direct, ça m'a appris à faire du direct et à délivrer où là t'as...
Ah bah là t'as pas le choix là.
Non,
t'as...
ne coupe pas. oui, tu dois tenir le temps parce que non, on n'enlèvera pas 30 secondes.
Ouais.
Donc ça n'a pas été la saison de médias que j'ai préférée.
Okay.
Mais bon, je te dis, ça m'a aguerri. Ça m'a obligée aussi à être très...
assurée, quoi.
Ouais.
Beaucoup d'assurance et de confiance.
Prendre ma place.
Ouais.
Bon, et puis ça c'était en 2013. À ce moment-là, j'ai sorti un autre livre, qui est Ex-Fan des Régimes, qui était un chouette livre où je commençais à expliquer, en co-écriture toujours, je commençais à expliquer un peu tous ces principes qui régissent notre rapport à notre alimentation, à notre poids. Et derrière, il y a eu ces grosses émissions. Là, j'ai eu énormément de chance. Je suis partie avec Michel Simès et Adriana Carambe au Japon.
Ouais, des pouvoirs extraordinaires du corps humain.
Ouais, exactement. J'étais l'experte fil rouge de toute l'émission. Ça a été d'abord génial de partir là-bas, génial de faire une émission hors plateau.
Ouais.
C'est pas du tout pareil.
Ouais.
Là, on déambulait, on
dans
rencontrait
un autre
des
pays
gens.
En plus, qui culinairement parlant est quand même hyper intéressant.
Et dingue, vraiment. Et où tout la relation aux autres, tout est vraiment différent. Et ça a été incroyablement porteur. Là, pour le coup, c'est un prime time très long, très suivi. Celle-là était très, très, très suivie en plus. Donc, là, ça m'a fait m'envoler en termes de patientèle.
Ouais.
Après, je mesure quand même, parce que je le mesure, si tu veux, il faut vraiment faire la différence entre la visibilité, la notoriété et la publicité. La visibilité, évidemment, elle est énorme. Là, mon nom, en termes d'occurrence, néanmoins moins que la première émission où j'avais 8000 connexions sur mon blog.
Effectivement, ouais.
Parce que bizarrement, entre-temps, il y a eu beaucoup plus de médias, beaucoup plus de sources, donc moins de gens qui viennent chacun consulter, même sur une grosse émission comme ça. Après, la notoriété, ça te suit, ça te sert et ça permet d'ouvrir d'autres portes parce qu'on t'a vu là-dessus. Donc, ça entraîne un moulin qui est très positif. Et après, en termes de publicité, si tu veux, d'abord, les gens qui viennent me voir quand ils m'ont vu dans une émission comme ça, parfois viennent me voir un peu par curiosité. Donc, ils sont pas forcément, ils se sont pas dit, je vais démarrer un travail avec elle. Ils se disent, ah, je vais aller voir la fille que j'ai vue à la télé. J'ai bien aimé sa voix, j'ai bien aimé son sourire. Ah, ce qu'elle disait, c'était intéressant. Ben, tu vois, les motivations, elles sont pas forcément toujours très costauds en termes de travail sur soi. Et donc, c'est souvent des gens que je vois apparaître, des petites météorites. Hop, je vois une fois, deux fois, puis putain, ils disparaissent. Mais néanmoins, c'est des gens qui vont peut-être être prescripteurs à un autre moment, en disant, mais va la voir, moi je l'ai vu qu'une ou deux fois, mais franchement, où j'étais pas capable à ce moment-là de comprendre ce discours, d'accéder à ça, parce qu'il faut être prêt. Et derrière, t'as aussi des gens qui ont compris ce que tu fais et qui viennent te voir en connaissance de cause. Et là, c'est hyper intéressant. Donc ça, c'était top. L'autre grosse émission qui m'a incroyablement servi, c'est Mille et une vies, animée par Frédéric Lopez. Franchement, cette émission, elle est disponible sur Facebook. Je la trouve pas par rapport à moi, mais d'abord, j'adore Frédéric Lopez comme intervieweur. Je l'ai dit en sortant du plateau qu'il pourrait être psy parce qu'il a une qualité de questionnement, d'écoute qui est absolument incroyable et sur des sujets quand même super touchy, tu vois, qui sont pas où tu te binonnes pas.
Complètement.
Voilà. Ouais. Et il est ultra disponible. Enfin, ça a été un enregistrement, je sais pas, qui a duré 2 ou 3 heures, mais tout le monde a eu sa place. Tout le monde, c'était très chouette sur 3 grands obèses qui avaient chacun perdu du poids, chacun de manière différente, mais en plus, le casting, ces gens étaient d'une humanité, d'une réflexion. Voilà, moi, c'est ce que j'aime faire. Et t'as rarement ça en télé, quand même. Ouais. Donc, voilà. Et puis, les dernières plus récentes, c'est Prenez soin de vous, qui était l'hiver dernier, qui ont été diffusées l'hiver dernier, qui était un programme où on recevait, avec Michel Simès en tête de proue, c'est comme on dit, en proue,
ouais,
de bateau.
Tête d'affiche.
Tête
ouais. Ouais, bon, on a l'idée en tout cas.
Voilà. Et où on était plusieurs experts qui recevions 3 personnes volontaires pour changer des choses dans leur vie pour aller mieux. Des gens qui se sentaient mal dans leur corps, dans leur dos, dans leur sommeil, dans leur alimentation, dans leur poids, mais pas seulement. Vraiment qui pouvaient avoir qui étaient trop maigres, qui se sentaient trop lourds, qui ne faisaient pas assez de sport, en tout cas, considérait-il.
Ouais.
Et donc, on était plusieurs experts et j'étais l'experte alimentation avec une vraie liberté d'action sur qu'est-ce qu'on dit, comment on dit. On l'a évidemment construit avec les journalistes, mais c'est ça que la chance que j'ai eue en média, c'est de ne jamais être choisie pour autre chose que ce que je venais apporter.
Ouais.
Et ça, c'était le plus gros écueil, c'était de ne pas me perdre entre les demandes des patients, les demandes des journalistes, de toujours demander à relire les papiers qu'on fait ou dans lesquels je parle, parce que tout ça, c'est de la nuance, c'est de la dentelle, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'était vraiment de creuser mon sillon et que ce soit de plus en plus évident que j'étais cette personne-là qui pouvait accompagner de cette manière-là.
Ouais. En fait, tu es toujours resté dans ta dentelle, mais de manière différente.
Complètement, tout le temps. Ben oui, parce que j'ai aussi fait des conférences, parce que ce qui
t'as fait de la radio aussi, enfin, pour le coup, on parlait des émissions, mais t'as fait de la radio
aussi. Oui, aussi. Et ce que je trouve génial, c'est l'éducation, finalement. C'est de parler à un grand nombre de personnes sans avoir rien à leur vendre, juste de leur offrir des pistes de réflexion, des pistes d'envol par rapport à leur... À leur pratique, à ce qu'ils font, à comment ils sont, comment ils vivent, comment ils mangent. Si j'ouvre une petite lucarne, une petite lumière, s'il y a un truc qui s'allume chez quelques personnes qui sont derrière leur poste ou dans la salle de conférence, je trouve ça génial. D'avoir une expression publique sans tomber dans un message... lambda, tu vois, un message trop lissé et qui serait trop santé publique, c'est super.
Ah, complètement. Mais j'ai adoré un passage de l'émission dont tu parlais, donc Prenez soin de vous, où il y a 3 personnes effectivement, avec Michel et je ne sais plus qui est là d'autre, et où quelqu'un mange de la compote et Michel est en train d'éplucher des pommes, enfin Michel Simès, bon, je me permets de l'appeler Michel, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Où au final, la personne qui mange de la compote, je ne sais plus, elle mange 9 pommes, je crois, et sur le même temps, qui 20 minutes, c'est ça 20
oui,
dégustation, bref. Michel doit éplucher des pommes et les manger, il en mange deux, quoi.
C'est
et donc, en fait, c'est pour montrer la différence entre différentes textures, différentes... Pareil avec les œufs aussi.
C'est ça, ce
passage génial de se rendre compte. Et ça explique, je trouve, très, très bien ce côté nutritif, si je peux employer ce terme-là. Tu me dis s'il y a un terme qui est plus approprié. Mais de se rendre compte, effectivement, en fonction de comment c'est cuisiné, forcément, à ne pas manger la même quantité et ça ne va pas faire la même chose. Et, enfin, bref, je trouvais ça hyper intéressant.
Alors là, c'est vraiment pour moi la quintessence de la télé. C'est pour ça qu'elle devrait exister, la télé. C'est pas pour faire des talk shows et voir deux pimpins qui sont assis et qui se racontent un truc qui pourrait se raconter à la radio.
Ouais.
Pour moi, c'est vraiment démonstratif, la télé. Et c'est compliqué parce qu'il faut, tu vois, monter. Alors, j'ai eu des critiques du style « Oui, mais c'est pas une expérience, on ne peut pas reproduire. » Évidemment, ça n'avait pas pour vertu d'être de la science, ça avait pour vertu de montrer et justement de faire prendre conscience que, en effet, selon la texture, en l'occurrence là, des aliments, on ne va pas en manger le même nombre parce qu'un aliment texturé va nous obliger à mâcher, il va ralentir notre prise alimentaire et il va obliger l'estomac à travailler. Et tout ça, c'est beaucoup plus rassasiant que d'engloutir quelque chose qui est mou, fluide, et où personne ne travaille, ni la mastication, ni l'estomac, et il vidange tout de suite, et donc on a toujours faim, sans se rendre compte des quantités qu'on a mangées.
Ouais.
Voilà, à cette petite expérience, c'est vrai qu'elle était, on m'en a beaucoup parlé, elle était vraiment top, et en plus, même moi, j'en revenais pas. S'appelait Stéphane, là, notre volontaire.
Ouais.
Stéphane qui mangeait sa compote là, dans son grand saladier. Et quand j'ai mesuré ce qu'il avait mangé comme compote, j'ai fait non, mais oh, c'est dingue. Neuf. Et il y avait à côté, je ne me rappelle plus de son prénom, une jeune femme qui avait mangé l'équivalent de 6 œufs.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Voilà, là où Clarisse, la judoka, doublement médaille olympique.
Exactement.
Or, Clarisse qui mangeait, je crois, qui avait mangé un œuf et demi ou deux œufs durs. Voilà, la différence. Bah oui, en effet, quand tu manges un œuf dur en pique-nique, tu te rends bien compte que ça te
c'est ça.
ça te prend vite au niveau de l'œsophage et que tu vas pas en manger 12. Alors que là, l'autre en avait mangé 6 œufs sans même se rendre compte de la quantité. Donc c'est vraiment. Moi, c'est pour ça que j'aime les moyens que permettent les médias et que pour moi, faire des choses, ça a ce but-là. Ce n'est pas pour montrer ma pomme, franchement.
C'est le cas de la guerre.
Ouais, c'est le cas. C'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Je n'ai pas de velléité d'être connue ou je ne sais pas quoi. Mais en revanche, d'amener de l'éducation sous forme ludique et de la réflexion, ben, je me dis que mon métier, je l'aime.
La phrase que tu as dit de ton père au tout début, t'en penses quoi aujourd'hui? Quel regard t'as sur cette phrase?
Alors c'est marrant parce que je l'ai beaucoup travaillé en psychothérapie.
Ouais.
J'ai beaucoup d'affection pour ce... De fait, je suis une psychologue d'exception dans le sens... Là, je mets des guillemets aussi, faut relativiser.
Ouais,
mais
qui,
dans le sens
cas,
où j'ai emprunté un chemin très particulier, très singulier,
atypique.
Très atypique. Et que de fait d'avoir fait beaucoup de médias et d'avoir fait pas mal de choses, oui, c'est vrai. Et je me dis, ben, c'est marrant, il s'en souvient pas du tout, lui, d'avoir dit ça. Mais je me dis,
c'est
mais
fou, quand même.
D'où il a sorti ce truc, me dire ça. En plus, je sais pas, ça sortait vraiment de nulle part, quoi. Et donc, j'ai beaucoup plus d'affection aujourd'hui. Je ne sens plus le poids. Je me dis, c'est marrant quand même. Est-ce que la phrase m'a amené à... Est-ce que d'une certaine manière, ça m'a poussé à me dépasser, à aller chercher d'autres choses, à être... ou est-ce que, il s'avère qu'il avait une espèce de prémonition, j'en sais rien. Mais je pense qu'en tout cas, elle n'était pas mal intentionnée et que le poids que j'ai pris était le poids que moi, j'avais à porter ce premier choix de réorientation. Dans ma vie, parce que c'était vraiment dur à cette période-là. Mais comme tu le disais tout à l'heure, les autres projettent leurs craintes sur nous. Et parfois, toi, tu projettes sur une phrase qui t'est dite de manière, presque un peu comme une sorte, comment on pourrait appeler ça, une sorte de prophétie bienveillante ou de prophétie tout court. Tu projettes un truc qui est hyper lourdingue et tu lui en veux quoi, pendant des années. Tu te dis, mais pourquoi il m'a dit ça? et non, juste, je me dis, ouais, c'est marrant.
Génial. J'adore. qu'est-ce qui t'anime au quotidien?
Attends, comment je peux te dire ça? Non, parce que j'ai plusieurs mots qui se précipitent dans ma tête en même temps. La nouveauté.
Ok.
Ouais. Tu vois, là, je vais faire deux trucs que j'ai jamais fait. Je vais animer un atelier dans un parc qui réunit des gens autour de la thématique du bien-être et du retour sur soi et du ressourcement et de la reconnexion. J'ai jamais fait. Sur okay. 3 jours, je vais voir je ne sais pas combien de personnes. C'est un truc de grande ampleur. Je n'ai jamais fait, j'adore.
Trop cool.
Maintenant, s'il faut que je le répète 5 fois, ça va me saouler.
Ouais.
Donc, ouais. C'est tout le problème. C'est que il faut que je trouve sans arrêt des espèces de nouvelles aventures. Je suis intégrée à la team Dr. Good Show, qui sont des conférences autour de la santé et du bien-être animé par Michel Simès. Et on est 4 spécialistes avec lui. On va passer dans différentes villes. On commence le 30 novembre par Lille. J'ai jamais fait. On va être face à 1200 personnes. J'ai jamais fait dans cette ampleur. Ça va donner une web émission. Ça m'excite parce que j'ai jamais fait.
Ouais.
Voilà. Donc, il y a ce truc. Mais si tu veux, comme par ailleurs, j'ai quand même mon fonds de commerce, si je puis dire, c'est pas très joli, mais mon fonds de roulement, enfin, je sais pas comment.
Ton activité.
Mon activité, ouais. L'assise de mon activité, ouais. C'est plus joli. L'assise de mon activité, ce sont les patients que je vois.
Ouais.
Chaque patient, c'est une nouveauté, et en même temps, c'est une structure que je connais bien, la consultation, la récurrence des consultations, etc. Donc, j'ai besoin là-dessus de venir implémenter des choses qui, m'obligent à réfléchir, à penser, à penser public différent, message, qu'est-ce qu'on veut passer, comment, logistique, enfin bon. Moi, je suis incapable de rester 100% dans mon cabinet et de voir des gens toute la journée. Et l'un sert l'autre et inversement.
L'un nourrit l'autre, là.
Ouais. Donc, ça, c'est vraiment, ce goût du projet, de la nouveauté, de la créativité, ça me plaît énormément.
Et ta répartition aujourd'hui entre toute cette partie média, on va dire, et la partie en cabinet?
Ouais, c'est à peu près 20% consulting média et 80% cabinet.
Ok, donc ça reste comme la majorité de ton temps.
Ah oui, oui, largement. Il y a eu des années où j'étais plus, où j'avais à peu près 60% cabinet et 40% média. Et là, c'est un peu schizophrène, tu vois. Enfin, t'as un côté un peu clivant parce que t'as cette espèce de... Pour accueillir les patients, pour accueillir leurs mots, et dans les deux sens du mot, il faut être disponible. Et si tu as trop de choses sur le feu, si tu es trop agité, si tu es trop... Parce que les médias, c'est très excité, tu vois ce que je disais tout à l'heure, c'est un machin, il faut délivrer très vite. Tu es très enveloppé, tu es très soutenu. Et puis d'un coup, tu te retrouves toute seule dans ton cabinet avec un patient en face.
Ouais.
Il faut être disponible à ça. Et pour moi, cette répartition, elle est bien. Je pense qu'elle est bien pour les deux.
Ok. Ouais, parfait. On arrive un peu sur la question de la fin. Quand même, quel conseil tu aurais à donner? Alors, il y a plusieurs questions là-dedans. Je vais m'en sortir. Je vais commencer par laquelle? Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui... comment s'intéresser au sujet, en fait, tu vois, par exemple, les personnes qui ne connaissent pas forcément ce sujet-là, déjà, par où ils peuvent toquer, à quel moment tu comprends qu'il faut venir voir quelqu'un comme toi pour aller mieux? Je ne sais pas si tu arrives à comprendre ma question.
Ouais, je comprends. Alors, à partir du moment où tu commences à te dire, je sens bien que ça ne se passe pas que dans mon assiette, ou j'ai l'impression que je connais tout, mais ça reste dans ma tête et je n'arrive pas à le faire descendre dans mon comportement, dans ma perception des choses... Là, il faut te faire accompagner.
Okay.
Et il ne faut pas te faire accompagner par un énième nutritionniste ou diététicien qui va te donner une énième méthode. Il faut te faire accompagner par quelqu'un qui est capable d'entendre ce qui est sous-jacent à tout ça. Ce que toi, tu pressens en te disant « je sens bien qu'il y a un truc où les gens ils disent « je vois bien que je mange mes émotions ». Tu vois, à partir du moment où tu dis ça, c'est pas en arrêtant de manger du chocolat ou de la charcuterie que ça va se régler. Il y a quelque chose à aller chercher ailleurs, à un autre niveau. Et là, il faut se tourner vers des gens pas forcément moi, hein, mais des gens qui ont une double approche ou qui ont un DU, ça c'est quelque chose d'assez nouveau, un DU de psychologie de l'alimentation.
Okay.
Voilà, donc tu peux avoir des diététiciens qui ont ce DU ou des psychologues qui ont ce DU et qui vont s'intéresser vraiment à l'alimentation. Ou alors quand tu es malheureux, parce que ça c'est vrai pour tous les psychologues, mais quand tu te sens submergé, malheureux dans ce que tu vis, c'est le moment où il faut consulter. Mais pas aller consulter un censeur. Aller consulter quelqu'un qui va t'accompagner. Aussi dans la démarche de ne pas forcément répondre à tes attentes et tes desiderata et tes idéaux. Parce que c'est comme ça.
Alors, je terminerai par autre chose, mais avant ça, est-ce qu'il y a quelque chose sur laquelle tu aimerais qu'on revienne ou qu'on n'a pas abordé? Et tu te dis, tiens, ça pourrait être cool d'en parler.
Franchement,
on a abordé pas mal de choses.
Tu m'as laissé une grande tribune. non, je pense qu'on a parlé... Enfin, si j'ai envie de parler un tout petit peu de cette question de la chance dont on parlait hors micro tout à l'heure. Parce que souvent, au début surtout, j'ai dit j'ai de la chance d'avoir rencontré Michel Sima, j'ai de la chance qu'on me propose ça, j'ai de la chance, etc. Puis mes copains, mes amis qui m'aiment beaucoup, me disaient non mais attends, t'as pas de la chance Laurence, tu réseautes énormément, tu rencontres des gens, tu fais en sorte qu'elle arrive cette chance, puis après tu la saisis accessoirement et puis tu la saisis plutôt bien. Et je me dis qu'en effet, c'est un peu un truc d'un syndrome de l'imposteur que de se dire... ah oui, je vais te dire ça après aussi. De se dire, c'est peut-être pas grâce à moi, c'est peut-être... C'est pas non plus l'idée de se mettre en posture, de se dire, attends, je suis la meilleure dans ce que je fais et tout et tout. Non, pas du tout. C'est juste d'être juste avec soi et de savoir reconnaître ses talents et des choses qu'on fait, même peut-être de manière un peu... tu vois, moi, je dirais pas, je suis quelqu'un de réseau, mais il s'avère que... pour mille raisons, le réseau se fait, que je le sollicite et qu'il me sollicite et que ça s'installe et que ça donne, ça produit des choses intéressantes. Donc ça, c'est la première chose, c'est ne pas se cacher derrière sa soi-disant chance, c'est se dire quelle est ma part du jeu là-dedans, et il y en a une, donc ça c'est cool. Et l'autre chose, c'est que bien souvent, quand on fait une reconversion, quand on arrive dans un univers qu'on ne connaît pas, on a un gros syndrome de l'imposteur. Et que c'est dur de dépasser ça parce qu'on se dit, mais pourquoi moi? En quoi je suis légitime? Attends, mais je suis là depuis un an. Et en même temps, comme tu arrives souvent avec une autre histoire avant, ben, tu as peut-être plus de maturité par rapport au sujet, tu as un autre regard. Moi, évidemment, quand je suis arrivée diététicienne, j'avais déjà un enfant. J'avais mon corps, je le trimballais depuis 30 et quelques années. Donc voilà, tu vois, je n'avais pas le même niveau de maturité par rapport au sujet qu'une jeune fille qui sortait du bac et qui était dans le même BTS que moi.
Ouais.
Et donc, ce truc de syndrome d'imposteur, il y a un petit livre génial de Belinda Cannon qui s'appelle Le sentiment d'imposture, je crois, qui est super, qui est vraiment qui permet un peu d'en finir avec ça. Et surtout, ne tardez pas trop à en finir avec ça, parce que à part d'être un frein, quelque chose qui te tire en arrière, hein, des élastiques qui sont collés à tes chaussures, ça n'apporte rien. En réalité, c'est une espèce, on croit que c'est de l'humilité, mais c'est pas de l'humilité, c'est juste un frein qu'il faut arriver à défaire, et ou se faire aider ou lire sur ce sujet pour à un moment donné aborder ce qu'on a choisi de faire en quiétude et en sachant qu'on est là pour des bonnes raisons.
Et en s'envolant, j'ai l'image de quelque chose qui s'envole pour enlever les élastiques aux pieds. Trop cool. Je vais terminer par quelque chose que j'ai vu sur ton site en fait et que je trouvais très joli. Donc je vais le lire. Et là tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va dire?
T'as vu comment je suis en train de mordre ma lèvre?
Exactement. Non, il y avait écrit, puisque nous allons faire un voyage ensemble, vous devez savoir que personnellement je suis gourmande. J'aime manger, découvrir, déguster, partager, aller au resto, mettre du chocolat sur les crêpes, lire, voyager, visiter les supermarchés, les marchés dans les villes étrangères, aider les gens à aller mieux, les accompagner dans leur voyage intérieur. Je trouvais ça très joli.
Merci, mais c'est joli, lu en plus par quelqu'un d'autre, ça m'émeut vachement. C'est ça, c'est vrai. Beau. Parce que dans ces métiers, il y a une dimension, évidemment, tu mets du toi, tu vois, forcément. Donc, je trouvais ça juste que les gens qui allaient venir vers moi et s'ouvrir à eux et s'ouvrir à moi puissent savoir qu'en face, ils ont aussi un humain, quelqu'un qui est incarné, quelqu'un qui a ses propres réflexions autour de l'alimentation, qui a sa propre histoire, qui... Et j'ai pas mis du Nutella dans les crêpes, mais en vrai... mais aussi la confiture de fraises. Non, parce que c'est quand même l'alimentation, c'est un truc qui nous relie de dingue.
Complètement.
Qui parcourt toute notre vie, et qui parcourt toute notre société, ouais. Qui parcourt toute notre histoire, toutes nos découvertes, parce que où qu'on soit, on a besoin de manger. Mmh. Et on se confronte à nous en permanence sur ce sujet.
Ouais, complètement. Pour terminer, on te retrouve sur les réseaux sociaux.
Ouais.
La Psy des Kilos. Et Laurence Aura aussi.
Ouais, la Psy des Kilos sur Instagram. Ouais. Bon, rapport un peu ambivalent à Instagram, mais on en parlera une autre fois.
Mais pour le coup, alors, il se passe plein de choses sur Instagram. Donc j'invite les gens à te suivre aussi, à regarder ce qui se passe. Parce que.
Ouais, non, mais.
Des belles interviews aussi que tu as pu réaliser dernièrement.
Ouais, donc, c'est ça. Je fais des lives avec des gens qui m'inspirent, tu vois. Je prends ta place. avec des gens qui m'inspirent, mais surtout avec des gens qui, je pense, inspirent les gens qui me suivent. Parce que je trouve que c'est juste, là encore, ouais. Des gens qui me suivent. Mais moi, je vis, je me nourris de plein d'autres choses et j'avais envie de partager cette nourriture-là aussi, mm-hmm. D'où les lives. Yes. Et c'est vrai que j'ai vraiment passé des bons moments avec ces gens qui réfléchissent autrement, qui mm-hmm. se posent des questions, qui sont en chemin.
Ouais.
Et la question du chemin, c'est... Bon, on est en chemin toute la vie, en vrai.
Ah ça, on le est cheminement d'accord. Est perpétuel. Ouais.
En tout cas, merci.
Merci à toi, Laurence. C'était un plaisir et ouais. À très bientôt.
Plaisir partagé.
Merci. Merci à tous pour votre écoute. Nous sommes ce que nous mangeons, disait Hippocrate, et c'est aussi le titre d'un livre de Jane Goodall. Et Laurence le fait bien remarquer, s'il y a bien une chose que nous faisons tout au long de notre vie, c'est manger. Alors autant y porter attention et surtout prendre du plaisir. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Pompon, et surtout, d'ici là, prenez le temps de manger et de bien manger. À très vite !